de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 15 mai 1996.
Nous allons continuer de voir comment les béatitudes annoncées par Jésus. Ces béatitudes qui ont été considérées par saint Augustin et Thomas d'Aquin comme ce qui structure l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, elle vient d'en haut. La Jérusalem céleste qui vient d'en haut. Et déjà dès cette terre, elle vient d'en haut. C'est pour ça qu'on est des étrangers par rapport à ce que représente la culture humaine. Il faut toujours se rappeler ça. Et l'inculturation doit nous permettre de mieux comprendre l'abîme qui existe entre la culture humaine, si grande qu'elle soit, si impressionnante qu'elle soit. La culture humaine telle qu'elle pouvait exister à Éphèse. Chaque fois qu'on va à Éphèse, on est toujours impressionné par cela. Les deux grandes villes qui existaient du temps de notre Seigneur, c'était Rome et Éphèse. Il n'y avait pas une si grande différence. Rome, la ville moderne, de l'organisation, de la domination des Césars. C'est pas très grec, ça. Et Éphèse, la ville d'art. Pierre, Rome, Jean, Éphèse. Pour nous, c'est très éclairant. C'est à Éphèse où il y a, point de vue quantitatif, le plus de reste de la culture assemblée, de la culture grecque. C'était une ville d'art, une ville grecque. Cette inculturation par rapport à cet art ne nous fait pas toucher ce qui caractérise la vie chrétienne. Plus la culture est élevée qualitativement ou quantitativement. Rome, c'était la quantité. Éphèse, c'était la qualité. Plus il faut comprendre l'abîme qui existe entre cette culture et le point de vue chrétien. Alors, faites des applications par rapport aux cultures d'aujourd'hui. Culture européenne, française, culture africaine, culture en Asie, culture aux Philippines, culture aux États-Unis. L'acculturation doit être, voyez, pour nous, ce qui est nécessaire à connaître, mais ce qui demande d'être dépassé. Celui qui demeure dans l'inculturation ne touche pas le point de vue chrétien. Alors, quand vous y réfléchissez, vous pourriez essayer de voir les divers dépassements, c'est les béatitudes. Ça, c'est sûr. C'est les divers dépassements. Don de crainte, le don de sagesse, la pureté du cœur, la miséricorde. Et le don de science, bienheureux ceux qui pleurent. et soif de la justice. Le don de conseil, bienheureux les doux. Là où vous pourriez mettre, mais c'est les choses se tiennent. On va essayer de les voir rapidement. Le don de science correspond à cette béatitude, bienheureux ceux qui pleurent. La béatitude de ceux qui pleurent, c'est ceux qui justement sont en présence de certains développements humains qui devraient être comme des tremplins pour aller plus loin vers le point de vue divin, deviennent des idoles. On pleure sur les idoles. Mais c'est très très important le don de science dans notre monde d'aujourd'hui pour discerner dans les diverses cultures ce qui est assumable par la vie chrétienne et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est le don de science qui fait ça. Un discernement. Qu'est-ce qui est assumable dans une culture qui devient purement psychologique et freudienne? Qu'est-ce qui est assumable dans une culture qui devient marxiste? Qu'est-ce qui est assumable dans une culture de la science dans la perspective de l'évolutionnisme? C'est quand même important de se comprendre ça. Eh bien, le don de science nous montre ce qui est humain. Qu'est-ce qui est assumable? C'est ce qui est humain. Qu'est-ce qui n'est pas assumable? C'est ce qui est purement artificiel, idéologique. L'idéologie comme telle n'est pas assumable, parce qu'elle n'est pas humaine. Elle n'atteint jamais une sagesse. L'homme devient mesure de toute chose. Et quand l'homme devient mesure de toute chose, ce n'est plus humain, c'est l'orgueil de l'homme. Alors, le don de science, don du Saint-Esprit, me permet de discerner ce qui, dans la culture dans laquelle je me trouve, dans laquelle je vis, dans laquelle je dois me trouver pour évangéliser. Un Mexicain qui retourne au Mexique doit, en retournant au Mexique, regarder le Mexique autrement que quand il est parti. Parce qu'il y retourne en apôtre. Il y est parti en citoyen. Et donc, il a un nouveau regard qui n'est pas le même. Et il doit voir ce qui, dans cette culture, reste authentiquement humain. Et ce qui, dans cette culture, n'est plus authentiquement humain et dépend d'idéologie athée. Celui qui retourne aux États-Unis, même chose. Ce qui retourne pour être apôtre en France, la même chose. On ne peut pas regarder le pays de notre langue maternelle de la même façon après et avant. Le passage dans la communauté Saint-Jean de formation doit être commandé par le don de science qui fait discerner ce qui est authentiquement assumable par la grâce et ce qui ne l'est pas et ce qui risque toujours d'être éteint. l'espérance et la charité, ce qui risque toujours d'être quelque chose qui vient freiner, empêcher le développement divin. C'est pour ça que le don de science est rattaché à la béatitude de ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent sur des idoles fabriquées par les hommes. Prenez ce qui est dit sur les idoles dans les psaumes. C'est quelque chose qui vient de l'homme, l'idole. C'est pas quelque chose de naturel. Il n'y a pas d'idole naturelle. L'idole, c'est toujours fabriqué par l'homme. C'est fabriqué par l'homme pour que l'homme s'y arrête. Oui, phénomène de la séduction. Qui fait qu'on l'adore. On adore, par exemple, on considère comme idole dans le monde moderne le progrès de la science. Et qui veut former un nouveau type d'homme, le savant. Cette idole qui veut former un nouveau type d'homme met une barrière par rapport à la découverte de Dieu. Je m'enferme dans le positivisme. Qui est une idéologie. Et je considère que Dieu n'existe plus, que Dieu était un mythe. Un mythe pour la conscience malheureuse, un mythe pour les enfants, un mythe qui pouvait permettre de discerner le bien et le mal. Et tout ça est passé et dépassé. Et on doit construire une nouvelle éthique purement humaine fondée sur l'homme. Et cette nouvelle éthique construite par l'homme et construite à partir de la science est une éthique purement horizontale, purement humaine, sans aucune élévation au-delà de l'homme. Et c'est cela qui fait pleurer. Parce que la science en soi est bonne, elle est grande. Mais ce qui est terrible, c'est quand la science devient la nourriture de l'homme orgueilleux. Je connais tout, je sais tout, je peux maintenant diriger tout, je peux maintenant avoir une domination sur tout. Alors il y a une espèce de corruption d'un bien humain pour l'exaltation de l'homme. Et la suppression de Dieu. Et cette exaltation de l'homme me donne une nouvelle éthique humaine, positiviste. Alors la béatitude de ceux qui pleurent me donne cette lumière intérieure que je n'ai pas le droit de diminuer l'homme à la dimension de ses idoles. Je n'ai pas le droit de considérer que ce qui provient de l'homme est supérieur à l'homme. Je n'ai pas le droit de considérer que ce que l'homme a fait dans sa science puisse moment-là, je suis entièrement sous le joug du progrès, de la connaissance. Je crois que c'est la première chose que le don de science nous fait découvrir, comment l'orgueil de l'homme, l'hubris, fait que l'homme est en train de se suicider lui-même. Parce que ce qu'il a créé, ce qu'il a fait, il le considère comme supérieur à lui. Comme supérieur à lui en tant qu'homme et auquel tous les autres doivent être soumis. Alors cette béatitude, bienheureux ceux qui pleurent, maintient l'homme dans une dépendance radicale à l'égard de Dieu. Et fait que tout ce qui est séduction dans le monde d'aujourd'hui ne peut plus être séduction et ramené à sa vraie dimension. Quelque chose de relatif à l'homme. Vous voyez, le don de science demeure un amour divin qui me permet de juger de l'intérieur les limites de la production. Et donc, libère l'homme d'un joug. C'est Jésus qui me libère de l'orgueil tyrannique des hommes. Et dans l'ordre pratique, cette béatitude, ceux qui pleurent, va permettre le développement du don de force pour lutter contre tout ce qui émanerait de ces idoles et me maintiendrait dans la tutelle de ces idoles pour la force pour les détruire, comme il est montré dans l'Écriture. On les détruit, les idoles, la nuit. Parce que si ceux qui sont les partisans des idoles nous verraient détruire les idoles, ils se précipiteraient sur nous. Alors il faut comprendre qu'il faut une force divine qui accepte d'être en danger de mort pour détruire ces idoles. Accepter d'offrir sa vie pour témoigner du seul véritable Dieu. La béatitude, ceux qui ont faim et soif de la justice relèvent donc la force, du don de force qui me permet d'être un témoin fidèle, de relativiser ma vie humaine en considérant que ce qui est le plus grand pour ma vie humaine, c'est d'être témoin de la vérité. C'est par la force intérieure qui vient de Dieu. On peut très bien continuer d'avoir peur de la mort, sensiblement. C'est normal d'avoir peur de la mort sensiblement. Dieu peut me permettre de dépasser cette peur par le don de force. À travers tout la béatitude de la justice, justice divine. Voyez que ces béatitudes-là, ces deux béatitudes, transforment toute ma vie humaine. Sa sensibilité, dans son caractère propre humain, et en faisant que l'humain soit transformé par le divin. Et c'est vrai qu'à ce point de vue-là, ça donne une très grande force. Il n'y a plus rien qui arrête quelqu'un qui a compris. L'adoration peut être un acte héroïque de force, mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à Dieu. Et la dernière des béatitudes, bienheureux les doux, avec le don de conseil. Transforme la prudence humaine par le don de conseil. C'est très fort, voyez. L'Esprit Saint ne s'impose jamais d'une manière impérative. L'impératif catégorique n'est pas du Saint-Esprit. L'Esprit Saint nous traite en amis et non pas en esclaves. Et nous traiter en amis et non pas en esclaves, c'est justement nous permettre d'avoir des initiatives divines. Les initiatives divines, elles nous sont données par le don de conseil. Et ces initiatives réalisent en nous la béatitude des doux. C'est par cette béatitude des nous qu'on se met au-delà de tous les contraires, de toutes les oppositions. Qui transforme. conseil pour moi est plus qu'un ordre. Et je l'accomplis le mieux possible, comme quelque chose qui me transmet l'amour de mon ami. Il y a là aussi quelque chose de typiquement chrétien et de très grand. Pour bien comprendre ces béatitudes, il faut les voir comment Jésus les vit à la croix, comment Marie les vit à la croix. Et nous pouvons alors comprendre que ces béatitudes vont de fait structurer la personne humaine. Et permettre à ma vie humaine, chrétienne, d'être tout entière tournée vers le bon plaisir du Père. En Jésus et par Jésus. Les béatitudes me configurent à Jésus et me permettent d'user de toutes choses comme Jésus lui-même me le donne et de l'utiliser à la manière dont Dieu veut. Donc, c'est très important pour nous de voir comment les béatitudes et les dons du Saint-Esprit vont structurer l'éthique chrétienne. Vont permettre de comprendre qu'il y a vraiment par le Christ et dans le Christ une manière de tout regarder, une manière divine de tout regarder, une manière divine de tout accomplir. Et je suis au-delà de toute acculturation. Je respecte cela. Je le respecte, l'homme et sa culture. Mais je montre que l'homme et sa culture ne peuvent pas atteindre ma béatitude. La béatitude est divine, elle n'est plus humaine, elle est divine. Et si ma béatitude est divine, c'est à travers ces béatitudes évangéliques que je peux développer en moi ce sens chrétien. L'homme chrétien, la personne chrétienne, à cette dimension. Je dois en être convaincu de l'intérieur pour mieux lutter. Ce qui me fait comprendre combien le chrétien, comme il est montré dans l'Apocalypse, lutte non seulement contre ses concupiscences, conséquences du péché, mais il lutte contre un milieu de vie à s'épanouir, à se développer et à chasser toute influence chrétienne. Alors, je vous nomme simplement, à partir des béatitudes volonté des dons du Saint-Esprit. Les oppositions que nous voyons dans les idéologies athées. C'est se regarder dans une attitude réflexive, indépendant de la finalité, coupé de la finalité, et regarder le conditionnement le plus radical de l'homme, conditionnement sexuel considéré comme l'absolu de l'homme. La pauvreté, c'est Sartre, la caricature. La pureté du cœur, c'est le néo-hégélianisme de Hamelin. La miséricorde, c'est l'idéologie marxiste. La béatitude de ceux qui pleurent. Donc la science, c'est le positivisme. La béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est Nietzsche, don de force. Et la béatitude des doux, don de conseil, c'est l'évolutionnisme poussé à l'extrême. Ces idéologies sont nées en sept contrats contre les béatitudes évangéliques pour promettre à l'homme un autre bonheur qui est un bonheur purement humain, trouvé en lui-même, en rejetant Dieu et en exaltant l'homme pour lui-même. En faisant que l'homme trouve sa propre, en lui-même, sa propre finalité. On comprend par là combien ces béatitudes évangéliques réclament de l'homme une lutte. situation du chrétien ne peut pas être une victoire humaine. Il ne peut pas trouver son royaume sur la terre. Il peut y avoir des moments de paix, mais il n'y a pas la béatitude des pacifiques sur la terre. Il n'y a pas de bonheur politique sur la terre. De gloire politique sur la terre. Puisque le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. C'est béatitude implique une grâce qui vient d'en haut et une grâce qui transforme toute la pâte humaine. Et c'est à l'égard justement de cette béatitude qui transforme toute la pâte humaine. Exige de l'homme de lutter avec des armes de pauvre et surtout ne pas prendre les armes des adversaires du Christ. Il y aurait toute une stratégie militaire intéressante à voir. Stratégie de combat à voir au point du chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui doit avoir le plus grand sens parmi tous les hommes de la lutte. Et le plus grand sens par le fait même de la victoire. Il lutte sur la terre incessamment, puisque le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Il lutte tout le temps en acceptant de ne pas voir le résultat immédiat de ses luttes, en acceptant de rester pauvre quant à ses résultats, parce qu'il lutte uniquement pour accomplir la volonté du Père. Je crois que c'est bien cela qui caractérise l'éthique chrétienne. Nous sommes partis de la mort du Christ, mais nous avons vu tous les fruits de cette mort à travers les diverses béatitudes. Et ce qui permet de mieux saisir dans ce combat, l'enjeu du combat, et les armes qu'on doit prendre, et la stratégie qu'on doit utiliser. Le danger est toujours de se laisser séduire par les armes humaines et l'efficacité immédiate des armes humaines. Les hommes luttent contre la force et la puissance, donc contre le corps. La lutte du chrétien n'est pas au même niveau. Elle est au niveau intérieur, au niveau de la victoire de l'amour divin. À l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Et à l'égard du prochain, cette charité fraternelle implique cette très grande force pour justement ne pas se laisser séduire. Elle implique qu'on considère que c'est dans la charité fraternelle que doit s'achever toute lutte. C'est vraiment dans la charité fraternelle. Encore, on lutte tout en aimant du Saint-Esprit et aux béatitudes évangéliques, comment c'est le développement des vertus dialogales qui apparaît comme le développement principal d'une vie chrétienne. Les vertus morales ne sont regardées qu'en fonction de la lutte. Il faut demander et comprendre à ce moment-là que toutes les vertus morales sont assumées par les dons du Saint-Esprit et donc par les vertus théologales. Les dons de sagesse transforment l'exercice divin de la charité. Le don d'intelligence transforme l'exercice divin de la foi, ainsi que le don de science. Le don de crainte transforme l'exercice divin de l'espérance. Ce sont les vertus théologales qui sont immédiatement et en premier lieu transformées par les dons. Et les dons impliquent la charité. Des vertus théologales, les vertus morales, la prudence, le don de conseil. La justice, assumée par la miséricorde en piété. La force et la tempérance. Mais c'est l'homme qui est saisi de l'intérieur par l'Esprit Saint, qui est le grand éducateur.